Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
IGA est fier de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
Dominique Vallière.
Ça devient pas mal une condition sine qua non.
S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois.
Yasmine Abdel-Fadel.
Ça serait tellement catastrophique.
La rencontre.
S'il va, il va se faire soincer.
C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans la boîte à mal.
Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne.
C'est pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions.
Puis le temps file rapidement.
La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux.
Allô, allô.
Bonjour.
Alors, commençons avec cette annonce à 14h. Normalement, selon le Journal de Montréal, on va commencer à parler d'assouplissement, notamment les restaurants qui pourraient ouvrir pour 4 personnes là, ou une bulle familiale, possiblement le retour du sport aussi chez les jeunes. Yasmine, enfin?
Enfin, c'est des très bonnes nouvelles. Ça veut dire que... On finit par, on a dépassé le pic, ça a été démontré dans les chiffres, mais que là, on va suivre aussi ce que l'Ontario va faire et le 31, en même temps que l'Ontario, 2 bulles ou 4 personnes pourront s'attabler dans un restaurant. Reste à savoir, est-ce que c'est un agenda qui est plus complet, qui vont nous annoncer à 14 heures, ou est-ce que ça va se limiter aux restaurants et aux activités sportives dites civiles des jeunes enfants? Moi, j'aimerais bien voir un portrait global pour dire, OK, les salles de cinéma, les salles de spectacle, ça va être pour quand? Même si c'est pas pour le 31 janvier, même si c'est pas pour le 8 février, mais quand est-ce qu'on imagine à peu près que ça, on va se rendre à cet assouplissement-là? Parce que ça va permettre de baisser la grogne, baisser la pression, puis dire que on vous a pas oublié. C'est pas qu'on considère que vous êtes pas important ou que vous êtes pas des travailleurs essentiels pour notre âme et pour notre santé mentale. C'est que ça va se faire de manière graduelle et vous êtes pris en compte. Et c'est cette date-là que l'on vise. On vous le confirmera ultérieurement.
Dominique.
Oui, pour vous donner une idée jusqu'à quel point la grogne est répandue, hier, c'était le diocèse de Québec qui demandait que les églises soient dans le paquet là, d'éléments qui soient rouvertes le plus rapidement possible. Fait que quand les évêques prennent la plume, vous le savez que
ça
c'est
va
rendu
mal.
Le temps de déconfiner. Fait que oui, parce que ça fait suite à ce qu'on se disait hier aussi. Encore aujourd'hui, on voit des articles, on voit des lettres ouvertes, ça vient de tous les milieux. Je pense que les gens se sont rendus là. Je pense que les gens se disent, on est capable de s'occuper de nos propres milieux. Et moi, ce que ça me dit surtout pour le gouvernement du Québec, et je sais qu'ils ne souhaitent pas ça, mais si d'aventure il y a un nouveau variant qui arrive dans 2 mois, 3 mois, si on doit refermer certains éléments, je pense que et la santé publique et les ministres en titre voudront pas revivre ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment.
Dominique.
Et j'espère qu'ils vont être beaucoup plus...
Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. On était à 5e vague là, en décembre, là, Dominique.
Non, mais j'espère, en tout cas, pour les restaurateurs, pour les propriétaires de tout ce qui est fermé en ce moment, pour les salles de spectacle, j'espère qu'ils vont avoir un lien plus proche avec leurs élus, puis qu'ils vont être en mesure peut-être de leur expliquer comment les mesures seraient applicables ou sont inapplicables qui sont pensées par la santé publique, parce que en ce moment, on sent une déconnexion qui a fait mal, je pense, au gouvernement, puis qui devrait, pour eux, ne pas se reproduire.
Est-ce que, justement, Yasmine, ça ouvre pas la porte à pas nécessairement avoir une unité de déconfinement, mais avoir... je pense qu'ils ne nous entendent pas en ce moment, Yasmine et Dominique. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi des signes si vous nous entendez. Et on ne m'entend pas, je crois, du côté de nos deux collaborateurs. Là, ils nous entendent. Bon, parfait. Alors, Yasmine, est-ce que ce que Dominique disait là, par rapport à cette possibilité d'avoir une autre vague, là, est-ce que c'est pas le temps d'avoir une unité, pas de déconfinement, mais une unité de reconfinement, d'avoir des gens là, qui vont nous dire, si jamais on avait une sixième vague, un autre variant, au lieu de tout fermer, couvre-feu, comme on l'a fait pendant les vagues importantes, d'avoir de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de réfléchir, de regarder la science, puis de dire, bon, ben c'est vrai que dans les cinémas, il n'y en a pas eu d'éclosion. C'est vrai que dans les restaurants, il y en a eu un petit peu, mais en cuisine, donc comment on pourrait s'arranger pour que ça fonctionne? Est-ce qu'il serait pas temps de penser à comment reconfiner si on devait confiner ou on se dit, ben non, on va rester optimiste, puis on va peut-être même être un peu jovialiste, puis ça n'arrivera pas, fait qu'on y repensera pas, puis si ça arrive, ben confinement, couvre-feu et autres?
Ben, c'est sûr qu'il va falloir y penser aujourd'hui avant que ça arrive pour ne pas être pris dans des soit des mesurettes pour faire face à la grogne populaire, soit des mesures très drastiques comme le couvre-feu qui peuvent faire très mal, que ce soit politiquement ou même d'un point de vue de santé publique, là, de santé mentale. Là, le couvre-feu, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Là, je suis pas scientifique, mais mon petit doigt me dit que c'était peut-être pas la meilleure chose. Mais la COVID, là, ça commence à devenir tellement courant que je me demande si éventuellement ça va pas devenir comme une espèce des unités transversales un peu partout dans tous les secteurs. Là, tu sais, par exemple, la CNESST, là, elle pourrait dans des restaurants débarquer parce qu'il y a un enjeu de santé publique où il y a pas de protection, puis dire ce restaurant-ci où il y a eu une éclosion, où il n'y a pas assez de mesures, il n'y a pas de port du masque, il n'y a pas X, Y, Z, devra fermer pour les deux prochaines semaines. Tu sais, on a des organes qui font des inspections dans différents secteurs et qui pourraient déterminer selon le degré de, dans une gestion de risque finalement, si cet hôpital, j'espère pas les hôpitaux là, mais ce restaurant, ce bar, cette salle de cinéma, cette salle de spectacle, ce gym devra fermer, plutôt que d'avoir des mesures, tu sais, mur à mur pour tout le monde à travers le Québec, que tu aies respecté les mesures, que tu aies respecté les règles sanitaires, que tu aies fait ta job, tu risques, tu sais, tu te retrouves à payer pour le moron qui lui a décidé que il s'en occupait pas. Ça va. C'est tranquillement là, on va commencer à intérioriser la gestion de la COVID comme une gestion des infections dans tous les secteurs, que ce soit dans les restaurants ou dans les hôpitaux.
Dominique, c'est quoi le gros défi cet après-midi pour le gouvernement Legault? C'est quoi son plus gros défi en termes de communication? On sait que ça a été difficile. On le voit du côté de l'adhésion de la population, que c'est ardu. Et là, on va ouvrir peut-être le sport, un peu les restaurants. C'est quoi son plus grand défi?
C'est de retrouver la clarté. C'est de retrouver une façon simple d'expliquer aux gens, voici où est-ce qu'on est, voici où est-ce qu'on va, voici pourquoi on y va, puis voici pourquoi on va à cette vitesse-là. Je pense que les gens sont pas écœurés des mesures sanitaires. On l'est tous, là, mais ils comprennent qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis pourquoi est-ce qu'il faut aider les gens dans le personnel de la santé, dont le personnel de la santé. Ça va. Mais ils sont, je pense, juste tannés de se faire dire, ben, ça, c'est toute l'information qu'on a. OK, oui, les cas, OK, oui, les hospitalisations, tout ça, mais pour demain, pour après-demain, moi, la prévisibilité, ça marche pas. Fait que je pense qu'il faut redonner un nouveau cadre d'analyse à la population, surtout si on s'en va vers ce que Yasmine disait, c'est-à-dire une responsabilisation individuelle des entreprises. Je pense qu'il faut être en mesure de communiquer ça, puis c'est à mon sens le gros défi, parce que jamais plus le gouvernement va vouloir que le premier ministre se présente puis dire le 30 décembre, ouais, ben le 31, les restos, c'est fermé. C'est ça, là, je pense que ça, c'est le bout qui ne passe plus, puis ça n'est que normal, et que ce n'est qu'une politesse élémentaire envers les propriétaires d'entreprises que de leur dire, de leur donner plus que 24 heures pour se virer de bord.
Parlons des camionneurs. Il y a un convoi qui est parti dimanche là de l'Ouest canadien qui s'en va vers Ottawa. L'objectif premier là, de ce convoi-là, à la base, c'était de manifester contre l'obligation vaccinale pour les camionneurs. On parle d'à peu près 10% au Canada de camionneurs qui ne sont pas vaccinés. L'Association canadienne du camionnage n'est pas d'accord avec cette manifestation-là. Mais on voit du côté politique, par contre, qu'il y a de plus en plus d'alliés là à ces camionneurs, notamment des politiciens conservateurs comme l'ancien chef Andrew Scheer qui a tweeté « Bravo aux camionneurs de monter aux barricades contre le gouvernement liberticide de Justin Trudeau ». Yasmine, c'est délicat cette question-là pour les conservateurs à Ottawa. Là.
c'est délicat, puis on l'a vu, Erin O'Toole n'est pas tout à fait à l'aise avec les questions entourant les camionneurs, parce que tu sais, ils partent pas de Terre-Neuve en s'en venant vers Ottawa, ils partent de Vancouver, puis ils vont traverser les provinces où il y a le plus de députés conservateurs, puis il y aura bien du monde en train de les applaudir sur les routes le temps qu'ils arrivent à Ottawa. Fait que, est-ce que Erin O'Toole peut dire qu'il c'est pas le moment de faire ce genre de manifestation, que c'est pas productif de faire ce genre de manifestation? Pas juste parce que ils doivent pas le faire, question de santé publique, puis ce qu'il leur est demandé, c'est pas la fin du monde, dans le sens, tu veux pas te faire vacciner, il y en a pas de problème, tu vas rester chez vous 2 semaines en quarantaine. C'est que eux, ils ne veulent ni la vaccination obligatoire, ni la quarantaine pendant 2 semaines. C'est là le problème. Est-ce que Erin O'Toole va pouvoir avoir le courage qui devrait être le sien comme chef d'opposition officielle? Je ne pense pas avoir comment Andrew Scheer est sorti publiquement pour dire bravo à ces truckers, bravo à ces camionneurs. La pression, ça démontre qu'il y a une pression énorme au caucus conservateur sur l'appui ou le non-appui à cette manifestation. Ce qui rend la chose une petite épine aussi dans le pied du gouvernement, c'est aussi toute la question de l'approvisionnement. On sait que les entreprises là vivent un gros problème d'approvisionnement. Les tablettes commencent à se vider. Et s'il devait y avoir un problème d'approvisionnement dû à des manifestations puis des refus des camionneurs de répondre à la demande, ben là, c'est sûr que ça va devenir un enjeu plus que politique, il va devenir économique.
Dominique?
Ben, tout à fait. Deux éléments. Pour le gouvernement, Yasmine a tout à fait raison. Je pense que et eux et les gens de l'Association canadienne du camionnage devraient expliquer de quoi est faite la chaîne logistique, puis dans quelle mesure ce 10%-là est réellement capable de perturber les éléments. Donc, je pense que ça pourrait être un outil intéressant au niveau des communications pour que la population puisse comprendre. Mmh. Oui, ça risque d'exacerber les problèmes ou non, on devrait être correct. Puis l'autre problème, ben, effectivement, c'est pour Erin O'Toole. Habituellement, les anciens chefs ont la décence de s'en aller. Monsieur Scheer, on comprend qu'il a fait un autre choix. Monsieur O'Toole doit prier, parce que c'est ce que les conservateurs font, que quand les camions vont repartir vers l'ouest, ils amènent Monsieur Scheer avec eux. C'est parce que c'est ça. Un ancien chef, ça reste jamais seul. Ses réseaux sont encore actifs. Il y a encore des députés qui leur sont fidèles. Et c'est tout ça qu'on voit. Et rappelons-nous, on est dans une période pré-évaluation du leadership de Monsieur O'Toole. Alors, ce que Andrew Scheer fait, c'est pas innocent, c'est pas anodin. C'est une autre petite coche dans l'armure de Monsieur O'Toole en disant, ah, souvenez-vous comment moi, j'ai fait une belle campagne et je me battais pour les principes conservateurs. Rien dont Erin O'Toole a besoin en ce moment.
Ouais, puis on a vu Pierre Poilievre aussi hier sur Twitter critiquer les gouvernements en ce moment, encore une fois, de liberticide et d'affamés de pouvoir qui utilisent la COVID pour se remplir la panse de ces pouvoirs-là. Alors disons que dans le caucus conservateur en ce moment, la ligne directrice sur comment on critique les mesures sanitaires, c'est pas très clair. Parlez-moi de Dominique Anglade qui recrute Yasmine. Ça vous a marqué hier, là?
Ben, en fait, tu sais, hier matin, là, je vous disais, le problème des libéraux, c'est qu'ils lancent des bonnes propositions, puis ils les gardent pas longtemps.
Ils pitchent plein d'affaires, puis ils espèrent que ça colle.
Ils pitchent plein d'affaires, mais même quand ça colle, ils passent à autre chose.
Alors, on lance autre chose.
Tu sais, dimanche, là, elle a fait, Dominique Anglade puis son équipe, une bonne sortie, une bonne recommandation au gouvernement. C'était bon. Mais ils l'ont pas laissé vivre dans le cycle de nouvelles. Ils l'ont tué avec un courriel pour demander des candidatures partout au Québec. C'était-tu vraiment nécessaire de tuer ta bonne nouvelle dans le cycle de nouvelles? Parce que hier, là, au téléjournal, personne parlait de la bonne sortie de Dominique Anglade. Tout le monde parlait de Dominique Anglade qui cherche des candidats partout parce que ça donne l'impression qu'elle n'est pas capable d'aller chercher des candidats. Ça, là, c'est un problème de communication. Tu fais ce genre de courriel quand tu as une mauvaise nouvelle que tu as annoncée la veille. Pas quand c'est une bonne nouvelle qui a accroché, que le monde dise enfin une bonne proposition. J'étais déçue de la stratégie de communication des libéraux. Par contre, hier, on a vu qu'il y a un nouveau processus de sélection des candidats à l'investiture. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas écrit noir sur blanc, c'est que même les candidats actuels devront passer par un comité de sélection qui va leur donner feu rouge ou feu vert. Rappelons-nous Evan Assef au fédéral, qui était une députée sortante des libéraux et qui a eu un feu rouge, pour, elle n'a pas pu se représenter pour les libéraux. Est-ce qu'il va y avoir une Eva Nassif au sein du caucus libéral? Ça, ça va être intéressant. La deuxième chose qu'on nous dit pas, combien de circonscriptions Dominique Anglade se garde pour des candidatures vedettes? Et si ces comtés-là, elle les garde sur l'île de Montréal, ben là, ça va être plus facile.
Dominique?
Ben, j'ai jamais vu ça, chercher des candidatures sur Instagram, là. Ça, c'est une première pour moi. Puis
ouais, mais c'est un parti de jeunes, Dominique, là.
Oui, c'est un parti de jeunes. Moi, quand j'ai vu la publicité, là, rassemblant tous les progressistes, je me suis dit, il doit avoir plusieurs solidaires qui se tapent ses cuisses en ce moment. Au moment où, en plus, on rappelle les 10 ans des carrés rouges, là, oui, ils doivent se dire, c'est le grand parti progressiste qu'il nous fallait, le PLQ. Ceci étant, je pense avoir décelé la raison derrière l'hyperactivité des communications libérales. Et si, dans les prochaines semaines, ouais, les députés actuels se mettaient à annoncer leur départ, et si, hein, on en mais a eu une, mais il va en avoir d'autres, alors il faut démontrer le mouvement avant. Il faut qu'on soit capable de dire non, mais on est dans un grand processus de renouvellement. Peut-être que la dégaine rapide actuelle est expliquée par le fait qu'on n'a pas envie que le spin, tout le monde s'en va mordre et prenne racine.
On veut parler d'autre chose avant que ce spin-là embarque. Dominique Yasmine, merci à vous deux.
Merci.